fadine de la tristesse oubliée, le bruit du cœur brisé faibli, et la cendre blanchit la braise. J'ai bu l'été comme un vin doux, j'ai rêvé pendant ce mois d'août dans un château rose en Corrèze. Fadine de la tristesse oubliée, le bruit du cœur brisé faibli, et la cendre blanchit la braise. Qu'était-ce qui faisait soudain un sanglot lourd dans le jardin, un sourd reproche dans la brise? C'est comment le noir secret de mon tourment, à son tour l'ombre s'y demande. Je cherchais à n'en plus finir cette douleur sans souvenir, quand parut l'aube de septembre.
Salut les amis, Salut les amis proches, les... je pense à Pépé, Scarlett, Delphine et Corinne. Bon, je suis désolée de vous avoir abandonné mardi dernier. C'était un petit voyage en Andalousie qui était la raison de cette absence. Et je vous le dis, ça valait la peine. Ça a été une parenthèse magnifique que ces villes espagnoles, enfin du sud de l'Espagne, riches en histoire et en solutions aussi, vu le réchauffement climatique qui nous est promis en France. Eux sont déjà prêts. Ça aussi, ça a été une belle leçon d'écologie. Voilà, je vous en parle un peu. Séville est un modèle de concentration historique et absolument surprenante. Parce que dans la vieille ville, par exemple, la cathédrale a avalé une mosquée et le grand minaret intouché est toujours aussi splendide. Il a juste pris quelques mètres et des cloches dans le ventre, enfin sur la tête plutôt. Quelques jolies fenêtres en plus, sobres et élégantes, et des terrasses courent partout autour. L'ensemble respire la tolérance. Vous imaginez ? On parle de religion et je vous dis, l'ensemble respire la tolérance. Pour moi, ça a été une grande première, ça. Le cœur historique de Séville, Santa Cruz, est enchanteur. C'est complètement foutoir. Le palais de l'Alcazar, la cathédrale sont incontournables. Et ce fut le quartier juif qui m'a le plus passionnée. Mais je l'ai vraiment senti comme le cœur intemporel d'une ville très, très ancienne où on passe de placettes en patio, en palais, replacettes et avenues. Et tout le quartier autour de cette immense cathédrale est absolument magique. On saute les siècles, on passe des arabes musulmans aux cathos de folie gothique et tout s'avale, se mélange, se bouscule et se prend dans les bras avec grande, grande richesse et éblouissement. Enfin, ça a été une très belle découverte parce que les Espagnols aussi sont, quand ils sont tous dans les rues d'ailleurs, pas le matin tôt, hein, mais des 11h du matin jusqu'à pas d'heure. Et ils sont tous nonchalants, souriants, et les petites rues sinueuses, pavées sont pleines, et puis elles sont toujours bordées par des maisons très belles, avec des hauts murs rouges. Et ce qui m'a le plus fascinée, c'est de marcher sur les trottoirs sous les orangers. C'était la saison en plus, imaginez. Il y avait des oranges partout, partout, partout. Il suffisait de lever la main si vous aviez soif. Oh, le long des rues, des ruelles, des placettes, c'était toujours fleuri, bordé de jardins magnifiques, de palmiers. Il y avait des arbres géants, bicentenaires et toujours accompagnés de bancs carrelés d'azuleros. Oh, j'en ai pris plein les yeux, plein, plein les yeux. J'ai vu des arbres de plus de 300 ans dans les jardins publics qui sont toujours ouverts. J'ai vu des palmiers, des cyprès, des orangers partout, des placettes partout aussi, des petits palais, des terrasses, des azuleros, des fresques, des murs colorés, des plantes magnifiques, des patios, des chevaux. Oh, le café est très fort, mais le jus d'orange divin. Musica. Don't ever let them hurt you in any way. Oh, never let them steal and take the best of you. Keep building cities from the ground. We rising with the wave. It's Kelpie Vibes. Don't ever let them hurt you in any way. Oh, never let them steal and take the best of you. Keep building cities from the ground. We rising with the wave. Mother Nature has a way of warning us. A time bomb set. Stop it, won't you listen? Amen, si amen, eva mi ale benekike, amen. Amen, si amen, que le bandia ero la nusilo. It's one of us, it's one of us, related.
Angélique Kidjo avec le titre Mother Nature sur les ondes de Radio Escapade et vous écoutez Dididi en compagnie d'Isabelle.
Voilà, je vous parlais de Séville, mais les villes d'Andalousie sont toutes magnifiques et l'histoire n'y est pas du tout effacée. Ce sera le même éblouissement pour l'Alhambra de Grenade dont je vous parlerai une autre fois parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et aussi la Mesquita cathédrale, la mosquée cathédrale de Cordoue. Dont là, je vais vous parler un peu parce que c'est une mosquée qui date des années 700. 700, vous imaginez? Et c'est entouré d'un jardin absolument splendide. On entre derrière de très hauts remparts. Ça a une surface énorme. Je ne sais pas laquelle, je ne peux pas vous dire, mais c'est vraiment... Il y a de quoi s'y perdre toute une matinée. La cathédrale est très belle de l'extérieur, mais à l'intérieur, alors c'est fascinant. Voilà, la mosquée qui a enveloppé, enfin, elle ne l'a même pas enveloppée, elle s'est glissée sous la cathédrale, en fait. La mosquée s'est glissée sous la cathédrale et a installé une forêt de presque 1000 colonnes aux arcs rouges et blancs qui sont considérés comme les plus impressionnants et les plus élégants de l'architecture mondiale. Vous imaginez? Elle est l'œuvre de... d'Abdelrahman Ier, enfin, qui fuyait la Syrie après l'anéantissement de son clan et qui va venir à Cordoue. Et là, il a voulu prendre le pouvoir, mais il s'est aperçu qu'effectivement, on ne prenait pas le pouvoir comme ça et que le pouvoir religieux était important. Donc, il s'est glissé sous la cathédrale et il y a fait un chef-d'œuvre. C'est pour ça qu'on l'appelle maintenant la Mesquita cathédrale, parce qu'elle est restée à la fois mosquée et cathédrale. Et elle demeure en plus un monument religieux. C'est parfaitement confus, parce que ça mélange les deux grandes religions, mais c'est d'une splendeur incroyable. Et tout autour, moi je ne vous parle pas du côté catholique, parce que c'est toujours un peu les mêmes choses qui reviennent, tandis que le côté arabisant, je ne connaissais pas du tout. Et je pense que les Arabes ont dû influencer aussi au sujet du jardin, parce qu'il y a un jardin sublime, une immense cour d'orangers, des fontaines partout, des bassins, des palmiers, des puits, des terrasses. Enfin, c'est un parc absolument merveilleux où on peut passer des heures et des heures. Et tout ça est fermé de hauts murs de briques rouges, mais ça représente un quartier entier de la ville de Grenade, de Cordoue. Enfin, j'en ai encore plein les yeux, tellement que je mélange les noms des villes. Bon, je vous parlerai de l'Alhambra de Grenade la semaine prochaine, parce que ces deux lieux ont été pour moi une splendeur et en même temps une leçon d'écologie. Musica.
Something's gone, it's gone for good. But now that you've gone, I wish that you would. I've turned around and left another time. Instead of leaving town with so much on your mind. All the riches of the world. Won't bring you back, nor yearning.
Save a Place for Me, c'est Pierce Faccini sur les ondes de Radio Escapade et vous écoutez Isabelle et l'émission Dididi.
Merci Pierce, que je salue dans la montagne, un peu plus haut que chez nous. Une chose m'a vraiment frappée, c'est notre aveuglement devant le changement climatique qui est certain. Je peux vous assurer que les Espagnols y sont prêts, hein, mais qui ne nous fait pas changer nos modes de vie. L'exemple de Saint-Hippolyte est un modèle désespérant. Quand le gros village avait un circuit d'eau très extraordinaire dont tout le monde était fier il y a encore 10 ans, le village aux 13 fontaines, vous vous souvenez, il y avait même des signaux sur les murs des maisons qui visiblement ont été effacés. C'était rare et une grande chance, des sources partout à l'est du village et un circuit très ancien qui desservait autant de fontaines. Et traversaient Saint-Hippolyte, que sont-elles devenues? On a vu disparaître celle du plan au profit d'une nouvelle place bitumée. Quelle modernité! C'est même bitumé au niveau du jardin d'enfants. Je ne sais pas si vous voyez un peu. C'est parfaitement bien vu. Ah là là, quelle magnifique vision d'avenir! À l'heure où on sait que le climat change, que nous aurons plus chaud et besoin d'ombre, la municipalité bétonne à tour de bras, même devant l'école, où le trottoir qui était sableux, et donc qui laissait passer l'eau, eh bien l'autre jour, en marchant là-bas, ça ne m'arrive pas souvent parce qu'il y a longtemps que mes enfants sont grands, je me suis aperçue que là aussi, ça avait été bétonné, même si on y a mis 3 grains de sable par-dessus. Les fontaines sont toutes arrêtées, les 13 fontaines, qui étaient en circuit bien installées. Mais c'est vrai qu'il fallait s'en occuper quand même. Comment peut-on être aussi négligent et stupide? Chaque ville ou village a une géographie particulière. Si nous étions dans le désert, peut-être l'eau aurait-elle eu de l'importance. On coupe l'eau, on coupe les arbres, on bétonne. Bravo au maire et au conseil municipal. Ça, c'est ma voix personnelle, hein, pas celle de la radio. Vous faites le contraire de ce qu'il faut faire pour survivre au changement climatique. Et ça me désespère. Moseka.
Une erreur infime s'est glissée dans l'image. Il me faut un petit sauvetage. Je veux pas alerter, mais depuis des semaines, je me réveille à l'envers de mon âge. Je respire encore, c'est pour ça que je m'en fais pas trop, juste un petit sauvetage. Ici. J'achèverai bien ces heures qui traînent. Je passerai bien un petit appel. C'est pas dans le noir que j'ai peur, c'est de voir nos cerveaux doucement fracturés. C'est pas dans le noir que j'ai peur, c'est de me voir ravaler ce que je peux plus mâcher. S'offrir aux décombres et le vide l'attirer, il me faut un petit sauvetage. Ici.
Lola Lafont avec le titre « Ici l'ombre » sur les ondes de Radio Escapade. Vous écoutez Dididi en compagnie d'Isabelle.
Alors, je voulais vous lire un article qui m'avait bien intéressée. Il s'appelle « Nourrir le monde sans dévorer la planète ». Il a appris le sens de l'émerveillement à regarder pousser les chênes et à écouter le chant des hirondelles, à sentir herbes, nuages ou oiseaux. Dans les recoins accidentés d'un ancien terrain de golf où la nature avait repris ses droits et où enfant, Georges Monbiot, dont je parle, s'échappait. Le sentiment de faire partie de cet écosystème, en observant, en éprouvant une connexion avec ce qui nous entoure, l'a submergé. Et c'est ainsi que le petit Georges, âgé de 8 ans, entreprit sa première action environnementale pour empêcher l'abattage d'un vieil arbre creux où nichait une famille de pivert. Il avait compris que même mort, un arbre est une incroyable source de vie. Quand un homme a débarqué avec sa tronçonneuse, je me suis accrochée au tronc et j'ai hurlé « je bougerai pas ». Mais mon plan avait une faille, raconte-t-il. Mes parents m'autorisaient à sortir toute la journée à condition que je rentre déjeuner. J'étais un enfant obéissant et quand je suis revenue, l'arbre était à terre. Voilà, l'apprenti activiste a encore tiré 3 leçons pour la vie. Seul, vous êtes impuissant. Deuxièmement, ne soyez pas trop obéissant et ne rentrez pas chez vous pour déjeuner. Il y a des jours où ça ne vaut pas le coup. Voilà, le Britannique Georges Monbiot, il a 60 ans aujourd'hui. Il est depuis devenu une des grandes voix de l'écologie outre-Manche. Il est chroniqueur vedette au Guardian et il est journaliste et activiste. Parce qu'il dit qu'on ne peut pas faire l'un sans l'autre. C'est vrai que maintenant, il a le flegme britannique et silhouette de jeune homme dans une veste verlicaine, dit-on. Je veux que les choses changent, faire tout mon possible, comme si quand j'avais 8 ans, face à un nid de pivert. Voilà. Il a pas une vengeance, mais enfin, ça lui a donné un moteur pour agir aujourd'hui. Alors, pour agir après des études de géologie, non, de zoologie, je ne suis pas encore rentrée, moi. Il a choisi le journalisme d'investigation, une vocation. D'abord à la BBC, puis en indépendant. À 24 ans, le voilà en Indonésie, où le régime du général Suharto, soutenu par la Banque mondiale, et les gouvernements américains et britanniques déplacent les populations indigènes pour coloniser la Papouasie occidentale et provoquer ainsi une destruction écologique massive, parce que l'île est interdite aux étrangers. Mais le persévérant Monbiot réussit à y pénétrer avec un ami photographe. Il s'ensuit une expédition folle pour les deux Tintin reporters, incroyablement stupide et confiant, comme on peut l'être à n'importe quel âge d'ailleurs. Arrêtés par l'armée, ils survivent dans la forêt en mangeant des insectes et Monbiot se retrouve dans le coma après une attaque de frelons. Mais son récit, mi-investigation, mi-aventure, ça s'appelle Poison, Flèche empoisonnée, ça s'appelle son bouquin. Il date d'il y a plus de 10 ans. Le fait connaître et ouvre une série d'enquêtes au long cours, souvent au risque de sa vie en Afrique de l'Est ou en Amazonie, dont il tirera des best-sellers. Mais le constat commun, c'est ce qui arrive aux populations, qui est indissociable de ce qui arrive aux écosystèmes. Impossible de traiter la question écologique sans comprendre les forces sociales. Et c'est au Brésil, aux côtés des peuples indigènes et des paysans engagés contre les grands propriétaires de l'industrie forestière et minière, qu'il a appris à identifier le pouvoir et que la propriété de la terre et d'autres formes de ressources naturelles est la plus importante de toutes les questions écologiques. Et cette approche foncièrement politique est restée son fil conducteur dans son militantisme de terrain contre les projets immobiliers ou autoroutiers. Et au fil de ses livres et des chroniques hebdomadaires qu'il a dans le Guardian, où il dissèque à sa manière rigoureuse les visages multiples et enchevêtrés de l'effondrement de nos systèmes terrestres, la crise climatique en constitue un élément crucial, mais indissociable du reste. L'atmosphère, les océans, la forêt, les sols, l'eau douce, la cryosphère, les glaces approchent tous leurs points de basculement, tous ces domaines-là. Alors, il faut des spécialistes, mais aussi des approches transversales qui explorent ce qui se passe. Parce que la nature ne connaît pas les limites. Celles-ci n'existent que dans notre tête. Et ne pas penser en silo, ne jamais hésiter à penser contre soi-même. C'est souvent provocateur, anticonformiste, mais toujours argumenté. Et quitte à choquer au sein du, du mouvement écolo quand en 2011, il devient partisan de l'énergie nucléaire pour son impact bas carbone, tout en s'opposant aux nombreux mensonges du lobby nucléaire, évidemment. Ou quand il défend les nourritures sans agriculture, fabriquées en laboratoire. Nous sommes en train de sacrifier le vivant. Nous avons besoin d'un changement radical dans nos manières de produire notre alimentation, y compris avec l'aide de la science. Son dernier livre, qui s'appelle « Nourrir le monde », pourrait vous intéresser, s'adresse à un constat implacable de notre système alimentaire, qui est la principale cause de destruction de la planète. Enfin, il n'y a pas que l'alimentaire, hein, il y a aussi l'essence, pas mal. Entre émissions de gaz à effet de serre, déforestation, pollution des sols et des eaux, massacre de millions d'animaux produits comme des matériaux industriels ou étalement agricole, la plus grande incidence sur la disparition des écosystèmes terrestres. Au Royaume-Uni, les humains occupent 7% des terres, les animaux d'élevage 51% d'élevage, hein. Si des extraterrestres débarquaient, ils en concluraient que la forme de vie dominante est le mouton. Mais ce n'est pas un enjeu politique. Alors, autre angle mort ahurissant, c'est la vulnérabilité d'un système alimentaire devenu ultra-dépendant du secteur financier, dont la concentration dépasse celle de ce même secteur financier avant le krach de 2008. 4 groupes contrôlent 90% du commerce des céréales. Et 4 autres ont la main sur 99% de l'élevage des poulets et autres exemples, tandis que nos systèmes de livraison à flux tendu exacerbent encore la fragilité du système dont la complexité s'intensifie plus vite que notre capacité à le comprendre. Voilà. Pourtant, pas question de baisser les bras, dit-il, les solutions existent. Grâce à des héros, des héroïnes à la hauteur du défi. Et au fil des pages, il donne à voir ces pionnières et pionniers de l'écologie des sols et de l'agroécologie à haut rendement. Ce sont des scientifiques qui inventent de nouvelles agricultures riches, productives, accessibles à tous, souvent biologiques et mettant fin à l'élevage. Est-il trop optimiste, Mr. Monbiot ? Comme disait George Eliot, ma romancière anglaise préférée, on peut s'en tenir au scepticisme pur. Il nous faut bien croire en quelque chose. Mais c'est encore mieux quand nos croyances reposent sur des résultats et des expériences pragmatiques et rigoureusement menées. Voilà, à réfléchir. Musica.
Maya s'endort sous les monts d'araignées. Oh Maya s'endort sous les monts d'araignées. Dans le vent brûlant. Là où poussaient les roses. Là où poussaient les roses, Omaya se repose. Omaya s'endort sous les mandariniers. Omaya s'endort sous les mandariniers, dans le vent brûlé. Elle seule le sait que bientôt. Repousseront les roses repousseront les roses. Toi, mon assassin, mon enfant, mon amour. À présent que je vole, à présent que tu cours, je n'aurai de cesse, tu le sais. Je n'aurai de cesse de te hanter toujours. Je n'aurai de cesse de te hanter toujours. Et je te condamne à l'amour. Maya repose sous le mandarinier. Oh Maya repose sous le mandarinier. Sans peur repose. Une tache au cœur comme une tache au cœur comme un bouton de rose, un bouton de rose.
Babix avec le titre Omaya sur les ondes de Radio Escapade. Vous écoutez Didi en compagnie d'Isabelle.
Ah, j'adore ce morceau. Bon, c'était un peu de douceur avant ce que je vais vous proposer. J'ai une fille qui est prof dans un lycée agricole. Et visiblement, les garçons sont assez primaires, je trouve, d'après ce qu'elle raconte. Enfin, ils ne le sont certainement pas tous. Mais l'un d'eux lui a dit plutôt que c'était les garçons qui menaient le monde. Il était tellement sûr de lui, il a dit « Qu'est-ce qu'elles ont inventé, les femmes ?» Rien, évidemment. Alors, ma fille a fait un petit questionnaire de culture générale à toute la classe. Et il leur a demandé « Qui sont les sorcières de la nuit qui terrorisent l'artillerie nazie pendant la Seconde Guerre mondiale ?» Eh bien, ces sorcières de la nuit, ce sont les aviatrices soviétiques. Donc, ce sont des femmes qui conduisent, enfin, qui mènent des avions violemment et qui défendent leur pays. Une autre question. Qui a inventé la programmation informatique ? Eh bien, c'est une femme, les amis. Elle s'appelle Ada Lovelace. Qui a calculé la trajectoire d'Apollo 11 permettant à Neil Armstrong de poser un pied sur la Lune en 69? Eh bien, c'est aussi une femme mathématicienne à la NASA. Elle s'appelait Katherine Johnson. Elle s'appelle peut-être toujours, hein. Quelle jeune femme Cévenol a créé la marque de haute couture la plus célèbre au monde? Tout le monde devrait le savoir ici. C'est Coco Chanel, qui était née au Vigan. Et c'était pas un homme. Quel est le chef viking enterré dans la tombe de Birka avec de nombreuses armes et deux chevaux? Eh bien, ce chef viking, c'était une femme. Par contre, je ne sais pas son nom, hein, mais on sait que c'était une femme. Qui a conçu le système de guidage d'urgence qui a sauvé l'équipage d'Apollo 13 alors qu'elle était à la maternité sur le point d'accoucher d'un futur acteur de cinéma? C'est dingue, c'est encore une ingénieure de la NASA. Elle s'appelait Judith Love Cohen. C'est dingue. On continue. Qui est Tomoe Gozen? Ça, moi, je ne connais pas l'histoire. Je pense que c'était une héroïne de manga, peut-être. C'est une femme samouraï. Qui est l'auteur qui a vendu le plus de romans au monde? Agatha Christie. Quelle est la seule personne au monde à avoir eu deux prix Nobel dans deux matières scientifiques différentes? Qui a découvert la radioactivité et inventé la radiographie humaine? Eh bien, c'est Marie Curie. Vous croyez que c'est un homme? Mais non, c'est une femme. Quel est l'écrivain le plus riche du monde? Ben, actuellement, c'est J.K. Rowling, celle qui a écrit... je ne trouve plus le nom de... Harry Potter, merci Fabrice. Qui a battu le record du monde à la voile en solitaire en 2005? Une femme encore. Et elle a battu le record du monde. Hein. Ce n'est pas qu'elle soit arrivée première une fois. C'est qu'elle a battu le record du monde de tous les tours du monde. C'était Helen MacArthur, une Anglaise. Qu'a découvert Rosalind Franklin? Voilà, c'est énorme. Eh bien, c'est la structure de l'ADN. Et c'est une femme qui a découvert ça, ce n'est pas un homme. Ah, je vais vous l'enfoncer dans la tête. Hein. Quelle actrice hollywoodienne a inventé la technologie du saut de fréquence utilisée aujourd'hui pour les téléphones portables? C'est le Wi-Fi, le Bluetooth, le GPS, les communications militaires sécurisées. Tout ça, c'est une femme qui a trouvé ça. Elle a inventé cette technologie, elle s'appelle... Eddie Lamar. Bon, elles ne sont pas très connues, hein, c'est vrai. On n'en fait pas la pub. Quel botaniste a fait le tour du monde déguisé en homme lors de l'expédition Bougainville en 1766 pour inventorier les espèces végétales inconnues? Ça aussi, c'est une femme botaniste qui a fait le tour du monde. Elle s'appelle Jeanne Barret. Qui est ballon d'or, médaille d'or olympique et double championne du monde de foot? Ça, moi, je ne savais pas, mais c'est Megan Rapinoe. Attendez, ce n'est pas fini. Hein. Vous allez y avoir droit. Quel programme informatique a conçu Margaret Hamilton? Eh bien, c'est une femme qui a fait le trajet d'Apollo 11 pour qu'il ne se plante pas. Qui a inventé le Kevlar? Stéphanie Kolek. Qui a découvert la fission nucléaire? Lise Meitner. Qui a inventé la scie circulaire? Tabitha Babbitt en 1813. Qui a découvert la trisomie 21? Marthe Gauthier, une Française. Qui a écrit Frankenstein à 21 ans? Une femme encore, Mary Shelley. Oh, c'est dingue. Qui a découvert la composition des étoiles? Cecilia Penn. Et qui est Valentina Tereshkova? Ben, c'est la première femme qui a été dans l'espace en solo. Une Russe. Combien de femmes ont été au commandement de la Station spatiale internationale? 4 femmes. Qui le sait ? Elles sont trop discrètes, hein ? Qui a survécu au camp de concentration, est devenu magistrat puis ministre de la République française, qui a défendu le droit à l'avortement, qui a été élue première présidente du Parlement européen, qui a siégé à l'Académie française, au Conseil constitutionnel et est enterrée au Panthéon ? Là, on le sait, c'est Simone Veil. Ah. Eh bien, qui sont les midinettes qui ont obtenu en 1917 qui profitent à tous les travailleurs français ? Eh bien, ce sont des ouvrières de la mode qui se sont mises en grève et qui ont obtenu que le samedi soit vaqué, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas le samedi. Ce sont des femmes. Allez, encore un ou deux. Quelle archéologue française a fait déplacer les temples égyptiens d'Abou Simbel pour éviter qu'ils soient engloutis par la création du barrage d'Assouan ? Bien, c'est une Française, Christiane Desroches Noblecourt. Et quelle brillante chimiste met au point un traitement contre la lèpre ? D'ailleurs, elle meurt à 24 ans et le président de son université s'attribue ses travaux. Bravo ! C'est ce qu'on appelle l'effet Mathilda, vous savez, quand un homme s'attribue les travaux d'une femme. Elle s'appelait Alice Bat. Ah là là, mais il y en a comme ça. Comme le chef militaire qui a bouté les Anglais hors de France. Eh bien, c'est Jeanne d'Arc. Voilà, les amis, c'est pour vous remettre les pendules à l'heure. Parce que quand même, depuis tellement longtemps, on méprise les femmes. C'est moins aujourd'hui, hein, heureusement. Mais quand même, il y a des petits cons, des petits jeunes qui croient que les femmes ne servent à rien et sont nulles. Et bon, voilà, il faut leur remettre les pendules à l'heure, à eux aussi. Merci, ma Delphine. Moseka.
Like a hand around my throat, boys and girls.
Moriarty avec le titre Vivi sur les ondes de Radio Escapade. Et vous écoutez Isabelle et l'émission Dididi.
Alors pour finir, je vais vous parler d'une photographe et de Bartabas. Alors, qu'est-ce qu'une mise au point ? Et qui a le droit de dire que la mise au point est légitime ? Eh bien, dans une lettre qui date de 1864, Julia Margaret Cameron, c'est cette jeune femme, enfin, c'était, cette pionnière anglaise de la photographie, qui a toujours assumé une part de flou dans ses créations, un soft focus, comme elle disait, un effet de douceur, à rebours des conventions de l'époque victorienne prisant la netteté. De quoi lui valoir de féroces critiques, comme le raconte cette étonnante rétrospective, riche d'une centaine de tirages présentés par thème. On y découvre une artiste à la forte personnalité qui laisse visible des imperfections, des taches, des rayures, des éraflures, des coulures, des traces de doigts, des déchirures. Elle cherchait à capturer le beau en s'inspirant de tableaux de la Renaissance, faisant poser des jeunes filles aux cheveux vaporeux en liberté, réalisant des portraits en gros plan et jouant sur le clair-obscur, tirant des grands formats. Elle était née en Inde, élevée en France, mariée à un fonctionnaire anglais en poste au Sri Lanka, mère de famille nombreuse. Julia Margaret Cameron ne se met à la photographie qu'à l'âge de 48 ans. Sa fille et son gendre lui ont offert un appareil lors de Noël en 1863 pour la distraire de sa solitude. Alors, elle vivait sur l'île de Wight à cette époque. Aucune vue de paysage, aucune nature morte dans le millier d'œuvres réalisées entre 64 et 75. Elle fait poser ses proches, ses enfants, ses petits-enfants, sa nièce, sa mère. Sa nièce, c'était la future Virginia Woolf, c'est drôle. Son mari qui la soutient, sa femme de chambre, surnommée Mary Madonna. Voilà, dans ses clichés, la tendresse affleure. Elle portraiture également les personnalités célèbres de son temps, comme le naturaliste Darwin et son voisin, qui est son voisin sur l'île, et le poète Alfred Tennyson aussi. Des photographies qu'elle commercialise, voilà. Avec ses cheveux en bataille et ses rides profondes, les deux portraits de l'astronome John Herschel se révèlent aussi saisissants. Alors Julia Margaret Cameron crée ainsi des mises en scène inspirées d'épisodes bibliques ou d'œuvres littéraires, jugées longtemps kitsch et qui n'ont vraiment été estimées qu'à partir des années 70, ce qui ne l'a pas empêchée d'être exposée de son vivant, recevant même une mention dans la catégorie photographie d'art de l'exposition universelle de Paris en 1867. Voilà, elle a actuellement une exposition au Jeu de Paume, dans le 1er arrondissement à Paris, et un catalogue d'ailleurs, jusqu'au 28 janvier. Vous pouvez voir ses photos, si vous avez le courage d'aller à Paris ou l'envie. Et puis, je voulais reparler des reines de Bartabas quand même, parce que c'est assez extraordinaire ce cabaret de l'exil avec les femmes persanes. Le scandaleux asservissement où les femmes sont maintenues dans les théocraties musulmanes de l'ancien empire perse est indigne. On ne le dénoncera jamais assez, mais plutôt que de le dénoncer, Bartabas va rendre hommage à ces femmes en évoquant l'époque pas si lointaine où dans ces mêmes contrées, moins arriérées qu'aujourd'hui d'ailleurs, les femmes étaient dans tous les domaines, et en particulier dans l'art équestre, mais aussi dans la guerre, la poésie, le chant, la danse, les beaux-arts. Elles étaient partout les égales de l'homme, les pauvres, comme ça a changé. Voilà, autour de la piste de Bartabas, inondée d'une eau couleur de sang, eh bien, les chevaux tournent comme des aiguilles sur un cadran de montre géant et nous font remonter le temps. C'est un spectacle des Zingaro extraordinaire avec peu de musiciens, mais quelques-uns, je pense, quand même. Mais ce sont surtout les quatre instrumentistes iraniennes qui vont jouer du kamanché et chanter au fil de la représentation. Voilà, c'est un message de Bartabas qui est des plus explicites. Il dit « Vive les femmes !» Alors, si vous avez envie d'y aller, c'est encore à Aubervilliers jusqu'au 31 décembre, dans son théâtre équestre Zingaro. Voilà, les amis, c'est fini pour aujourd'hui. À la semaine prochaine, même jour, même plaisir pour ma part, en tout cas. Merci mille fois, Fabien, de m'avoir accompagné en musica.
Adios, adios, adios to your afternoon, 'cause tonight I'll be forever following the Colosseum moon into a certain room. Adios, adios, I'm sorry for quickly jumping into the train. I waited but no one came, you were just too late. That decision is mine, that decision is mine, so let the lesson be mine, let the lesson be mine. That decision is mine, that decision is mine, 'cause the vision is mine, the vision is mine. Mm-hmm. Adios. Yes, goodbye, adios. Adios to the little child in me who kept on blaming everyone else instead of facing his own defeat in Edmonton. After all, I should have no regrets, for if it wasn't for my mistakes I made yesterday, where would I be? Bye. That decision was mine, that decision was mine, so let the lesson be mine, let the lesson be mine. That decision was hard, that decision was hard, but the vision is mine, the vision is mine.
Silver Street, taking the train. I know very well, and angels, they come and go. You know, last time I met an angel, but then, you know, she left, and I don't know the things about angels anyway. You know, sometimes you think that you know more than you know, but you actually don't understand. Anyways, when they come to me, they sing to me so beautifully. If I can recall their melodies, it goes, excuse me to take your time, but it goes something like this. Lest the tree cease breathing, lest the bee cease breeding, and all the salt in the Dead Sea ferments to honey. Until then, I'll be forever chasing, chasing, chasing. The decision is mine, let the lesson be mine, 'cause the vision is mine, the decision is mine, let the